Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Une affaire criminelle de 2006 aujourd'hui. L'assassinat de Marcel Bouvard à Ladoix-Sérigny, en Bourgogne. L'histoire très émouvante d'une vieille dame qui meurt sous les coups d'un jeune garçon de 21 ans qu'elle considérait comme son petit-fils et qui la tue pour toucher l'héritage, mais pas que, vous verrez. J'ai écrit cette histoire avec Christophe Dumazer. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je vous emmène en Bourgogne, au milieu des rangs de vignes de Nuit-Saint-Georges et d'Alox-Corton, dans un gros bourg à environ 10 km de Beaune, Ladoix-Sérigny. Le lundi 17 avril 2006, lundi de Pâques, vers midi, les gendarmes débarquent chez une habitante du village, Marcel Bouvard. Une habitante qu'ils connaissent bien, d'ailleurs tout le monde la connaît dans le coin, c'est la veuve de l'ancien maire, Charles Bouvard. Et s'ils viennent déranger Marcel comme ça de bon matin, un jour férié, c'est pour la bonne cause. Quelqu'un a trouvé son portefeuille dans un bois, il l'a rapporté à la gendarmerie, ils viennent gentiment le lui rendre. Pas de réponse. Mais comme le portail est ouvert, les gendarmes entrent dans le jardin. Et puis comme la porte du garage est ouverte elle aussi, ils passent une tête. Oh merde ! Au pied de l'escalier du garage, un corps baigne dans une mare de sang. Une femme. Les gendarmes préviennent tout de suite leur chef.
Oui, a priori c'est la propriétaire, Madame Marcel Bouvard. Bien reçu ?
Affirmatif. Vous procédez au gel de la scène et vous attendez l'arrivée de la SR de Dijon. À vous.
Alors, examinons la scène de crime ensemble. Le corps gît au pied de l'escalier à environ un mètre de la dernière marche. Il est recroquevillé. Il présente des entailles importantes à la tête. La dame a perdu beaucoup de sang. Est-ce que ça pourrait coller avec une chute dans l'escalier? Marcel Bouvard avait 79 ans, elle a pu tomber. Elle vivait seule depuis la mort de son mari il y a 4 ans, elle est morte sans avoir pu appeler au secours. Eh bien non, parce qu'il y a des gerbes de sang sur le mur, à l'angle de l'escalier. Des projections. Et ça c'est le signe qu'on lui a porté un coup, ou plusieurs coups, a priori sur la tête. Avec un objet genre masse ou gourdin. Bam ! Bam ! Donc ça n'est pas un accident. C'est un meurtre. Les experts de la section de recherche de Dijon débarquent. Ils cherchent des traces, traces de pas, traces ADN, empreintes digitales. Rien. Pas de désordre dans l'appartement au-dessus du garage. En revanche, les fils du téléphone ont été arrachés et dans l'entrée, il y a un vanity case vide. Est-ce qu'il contenait des bijoux? Ça se pourrait bien. Mais étrangement, la vaisselle, les tableaux, les bibelots, tout ça a une certaine valeur et tout est encore là. Et puis sur la porte, il n'y a pas de traces d'effraction. Comme si Marcel avait ouvert à ceux ou à celui qui l'ont tué. Dernière chose, il manque sa voiture. Une Laguna Break bleue. D'habitude, elle est toujours garée dans la cour. Elle n'est pas là. Le corps de Marcel est emmené à l'Institut médico-légal de Dijon. On pratique une autopsie. Le légiste identifie 14 plaies rien que sur la tête. Fracture du crâne, fracture des os de la face. Celui qui l'a tué n'y est pas allé de main morte. D'après le légiste, le tueur a utilisé un objet contondant comme on l'envisageait. Lourd, forcément lourd. On retrouve la voiture dans un bois, le bois de la Borne, à environ 5 km de Sérigny, complètement calciné. À l'intérieur, il ne reste rien, tout est cramé. Tout ce qui reste, c'est un gros bout de verre dans le coffre. Et la coup de peau. En lisant Le Bien Public, le journal local, le lendemain, un pompier volontaire se souvient d'avoir vu une fumée dans la forêt, samedi dernier.
Quelle heure était-il? Vous vous en souvenez? Ah ouais, j'ai regardé ma montre. Il était 7h30.
Donc le crime a eu lieu le samedi avant 7h30. Or, ce témoignage peut être recoupé avec un autre, une voisine de Marcel.
« Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu le samedi dans son jardin. Il était 6h20, je crois. Et puis après, je ne l'ai plus revu. »
Donc, le crime a eu lieu le samedi de Pâques, entre 6h20, heure où la voisine l'aperçoit pour la dernière fois, et 7h30, heure où le témoin voit au loin la voiture brûler dans le bois. Une fenêtre de 70 minutes, 1h10. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Je résume. Le meurtre est commis en fin d'après-midi le samedi. Celui qui a tué était costaud. Le légiste dit que l'arme du crime était forcément lourde. On ne fracasse pas un crâne comme ça. Faut y aller. Comme il n'y a pas de traces d'effraction, on peut penser que Marcel a ouvert à son tueur. Elle le connaissait. Donc c'est sans doute un proche. Après le meurtre, on vole la voiture. On va la cramer dans le bois de la borne. Comment est-ce que le tueur fait pour repartir? Il est à pied. Sauf s'ils étaient deux. Donc, un proche, costaud, possiblement aidé par un complice qui était dans le coin, samedi, en fin d'après-midi, début de soirée. Voilà ce qu'il faut chercher. Et là, coup de chance. Parce qu'un proche, justement, de Marcel Bouvard se manifeste. Fabrice, son petit-neveu, ou plutôt le compagnon de sa petite nièce. Et voilà ce qu'il vient raconter.
Je voulais vous dire, j'ai reçu un SMS, un drôle de SMS. Il a écrit « On sait que c'est toi ». C'est ça le message. Je voulais vous prévenir, quoi.
Et qui vous a envoyé ce SMS?
Moi, je sais pas. C'est un 06 que je connais pas. Il n'est pas dans mon répertoire.
Vous faisiez quoi, monsieur, le samedi de Pâques, en fin d'après-midi?
Le samedi de Pâques? Ben, j'étais à la maison.
Quelqu'un peut en attester?
Ben, non. Non, je réfléchis, personne n'est venu. Enfin, j'étais chez moi. Comment voulez-vous que je le prouve?
Eh oui. Fabrice était venu aider l'enquête, il se retrouve suspect, forcément. Et sa femme aussi, d'ailleurs, qui est interrogée en ce moment dans la pièce d'à côté. Ils sont jeunes, ils sont proches, il est costaud, il a exactement le profil. On découvrira plus tard que le SMS provient de son beau-frère qui dit qu'il a voulu lui faire une farce. Bref. Alors maintenant, il faut que je m'arrête deux secondes pour vous expliquer les affaires de famille des Bouvard. Marcel et feu son mari Charles, l'ancien maire, n'avaient pas d'enfants génétiques. Mais ils avaient quelqu'un qu'ils considéraient comme leur fils. Je dis « avait » parce qu'il est mort lui aussi. Petit Marcel. Un neveu qui s'était trouvé orphelin à 8 ans et qu'ils avaient élevé. C'est une histoire assez triste, parce que devenu adulte, petit Marcel s'est mis à boire. Il était marié, il avait deux enfants, sa femme a fini par se barrer avec les gosses. Et puis un soir, il est allé dîner chez Charles et Marcel, il est sorti bourré comme un coin, il s'est tué dans un accident près du cimetière. Donc, à la mort du petit Marcel, qu'est-ce qui reste comme famille au Bouvard? Eh bien, leurs deux petits-enfants, qui sont en réalité leurs deux petits-neveux, peu importe, les enfants de leur petit Marcel, Marie-Madeleine et Geoffrey. Quand on parle des proches des Bouvard, il ne reste plus que ces deux-là. Est-ce qu'ils voyaient leur grand-mère avant son assassinat? Eh bien, justement, non. Ni l'un, ni l'autre. Et pourtant, Marie-Madeleine vit à Ladoix-Sérigny, dans une maison qui appartient à Marcel. Mais ils ne se voyaient pas. Depuis la mort du petit Marcel, et puis après celle de Charles, le grand-père, ils avaient tous les deux perdu le contact avec Marcel. Il paraît que Marcel en était très aigri d'ailleurs. Très! Dans le journal intime qu'on a retrouvé chez elle, elle écrit « Je suis seul au monde à jamais ». Douloureux constat. Pour une femme qui, n'ayant pas pu avoir d'enfant, se retrouve finalement seule. Seule au soir de sa vie. Après, il y a des gens qui disent qu'elle l'a un peu cherché, hein, qu'elle n'avait pas la fibre mamie gâteau, qu'elle n'était pas tendre, qu'elle n'était pas généreuse avec ses petits-enfants, alors qu'elle avait les moyens pourtant. Et la preuve que ça bardait entre Marcel et ses petits-enfants réside dans le testament qu'elle a laissé. Elle laisse sa maison à Marie-Madeleine, une toute petite maison qu'elle a dans le village à Geoffrey, et tout le reste. une autre maison dans le bourg, ses 3 résidences secondaires, ses 2 vignes et tout l'argent qu'elle a sur ses comptes, elle le lègue à sa famille, à elle, à des cousins. Alors que du vivant de Charles, il était question que les gamins héritent de tout. Elle a changé son testament sans le leur dire. Notez-le bien. Dans son journal intime, on trouve une phrase terrible. « Ne rien laisser à Geoffrey ». Marcel a déshérité ses petits-neveux. C'est ça le contexte de cet assassinat. Et donc Fabrice, celui qui a reçu le SMS, c'est le compagnon de Marie-Madeleine. Et pour l'instant, vous avez compris, ils sont tous les deux dans le collimateur des gendarmes. Et Geoffrey, alors, le deuxième petit-neveu. Le plus jeune, il a 21 ans. Il habite dans le Doubs, à environ une demi-heure de la Doye-Sérigny. Les gendarmes le convoquent à son tour.
Alors monsieur, que faisiez-vous le samedi de Pâques en fin de journée?
J'étais chez moi. J'ai pas bougé de l'après-midi.
Quelqu'un pourra le confirmer?
Oui. Ma copine Lucie. Quand elle est rentrée, je sais pas, vers les 7 heures, j'étais à la maison.
La copine Lucie est interrogée à son tour.
Qu'avez-vous fait le samedi de Pâques, mademoiselle?
L'après-midi, je suis allé à la maternité, voir une copine qui avait accouché. J'y suis allé avec un copain qui s'appelle Anthony.
Vous êtes rentré à quelle heure?
Je sais pas, vers les 7 heures.
Et Geoffrey était là?
Ah oui. Oui, il était à la maison.
Donc, elle confirme l'alibi de Geoffrey. Mais elle peut mentir. Et donc, les gendarmes vérifient auprès de cet Anthony avec lequel elle serait allée à la maternité.
Dites-moi, monsieur. Lucie dit qu'elle est allée à la maternité avec vous, le samedi. Vous confirmez?
Oui, je confirme, oui.
Elle dit que vous l'avez raccompagnée vers 19h. Est-ce que c'est le cas?
Ouais. Même qu'en chemin, on a croisé Geoffrey. Il était dans la voiture de son copain Johnny. Même que quand on s'est croisés, il nous a rattrapés. Il était furieux que j'ai passé l'après-midi avec Lucie. Il est jaloux. Alors il nous a tapé le scandale. Il a même voulu me coller un coup de boule.
Intéressant. Ça veut dire que Geoffrey et Lucie mentent. Il n'était pas à la maison chez lui à 19h. Il était en voiture avec son copain Johnny. Là-dessus, les gendarmes se font remonter les fadettes de Geoffrey. Le relevé détaillé et géolocalisé de son portable. Ça prend toujours un peu de temps, mais le résultat est bien intéressant. À 18h30, le portable de Geoffrey accroche une antenne relais à Bonne, laquelle antenne arrose le village de la Doye-Sérigny. Donc, Geoffrey était sur les lieux du meurtre à l'heure du meurtre. 21 ans, le quasi-petit-fils de Marcel. Elle a eu du nez quand elle a écrit, un mois avant d'être assassinée, dans son journal intime. Ne rien donner à Geoffrey. Alors pour quelle raison Geoffrey aurait-il tué sa quasi-grand-mère? Ça coule de source. L'héritage. Il ne savait pas que Marcel ne lui avait laissé qu'une toute petite maison. Il pensait toucher le gros lot. Et l'enquête va révéler que Geoffrey est sans le sou, qu'il passe ses journées à fumer des pétards, qu'il n'a pas de travail, qu'il vient de se faire virer pour faute. Voilà le mobile, a priori. Il comptait sur l'héritage. Et maintenant, est-ce qu'il va avouer? Un mois et demi après le meurtre, Geoffrey, 21 ans, sa copine Lucie, 19 ans, et son ami Johnny sont placés tous les 3 en garde à vue. Geoffrey commence par nier en bloc. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Sa copine Lucie, en revanche, apparaît d'entrée beaucoup plus fragile. C'est une pauvre gamine qui finit par cracher le morceau.
C'est Geoffrey. C'est Geoffrey qui a tué sa grand-mère.
Retour dans le bureau où Geoffrey est en garde à vue.
Jeune homme, votre amie Lucie vient d'indiquer sur procès-verbal que vous avez tué votre grand-mère, avec la complicité de votre ami Johnny, qui vous aurait conduit sur place. Qu'avez-vous à dire là-dessus?
Il craque. Il craque assez vite. Il raconte qu'effectivement, il a demandé à son ami Johnny de l'emmener chez Marcel en lui promettant une petite rétribution. Qu'ils se sont garés pas loin, qu'il a hésité et que c'est Johnny qui lui a dit
« Allez, vas-y, c'est pas le moment de reculer, Geoffrey. »
Qu'il a mis des gants, qu'il est allé frapper. Elle ne l'aurait pas reconnu, figurez-vous. Ils sont allés parler dans le salon. À un moment donné, elle s'est levée pour aller chercher quelque chose dans le garage, des photos. Elle a pris l'escalier. Il l'a poussée. Et après, il a attrapé l'arme du crime, un Jéroboam, une bouteille de 3 litres de vin, et bam ! Il lui a collé des coups de bouteille sur la tête. Et après, il a simulé un cambriolage, il a coupé les fils du téléphone, il a volé les bijoux, et il est parti avec la Laguna rejoindre son ami Johnny, qui l'attendait près de la gare. Et ensemble, ils sont allés au bois de la Borne. Dans la boîte à gants de la voiture, Geoffrey dit qu'il trouve le portefeuille de Marcel, qu'il le vide, il y a 20 euros et 2 carnets de timbres, et qu'il le jette. Et après, il brûle la voiture, et Johnny le ramène. Voilà, il a tout avoué. Il va dormir en prison. Mais maintenant, il nous reste à comprendre pourquoi un gamin de 21 ans, un peu paumé, en est arrivé à tuer une vieille dame qui, quoi qu'il en dise, était un peu sa grand-mère. En tout cas, celle que son père aimait comme une mère. L'héritage, c'est une explication. Mais ça n'est pas toute l'explication. Ça ne dit pas comment un gamin de 21 ans se retrouve à tuer une vieille dame à coups de Jéroboam. 14 coups minimum. Bim, bim, bim. Qu'est-ce qui peut expliquer cette rage? Au cours de l'instruction, Geoffrey ne va livrer d'explication qu'à une seule personne, la psychologue qu'on lui envoie à des fins d'expertise. Et c'est très intéressant. Geoffrey, du haut de ses 21 ans, tient sa grand-mère comme responsable de l'alcoolisme de son père, le petit Marcel. Elle le laissait boire, elle l'a laissé se détruire, elle l'a laissé détruire son couple. Il a gardé, Geoffrey, un traumatisme de l'alcoolisme de son père.
Combien de fois c'est moi? J'avais quoi, 6 ans, 7 ans? Je lui disais, papa, conduis pas si vite. Papa, ralentis. Papa, garde ta droite. C'est horrible, il était bourré. Il conduisait comme un fou.
Mieux, Geoffrey tient sa grand-mère pour responsable de la mort de son père. Vous vous souvenez que le père meurt dans un accident de voiture en sortant d'un dîner chez ses parents adoptifs. Elle l'a laissé partir sous. Elle a tué son père. Voilà ce que pense Geoffrey. Et voilà donc ce qu'il dit à la psychologue, pas au juge d'instruction, juste à la psy. Mais c'est une explication qui figure au dossier. Et on verra si les jurés de la cour d'assises y seront sensibles. Au passage, vous remarquerez que l'arme du crime devient pour le coup psychanalytique. Il tue sa grand-mère, qu'il juge responsable de l'alcoolisme de son père, avec un Jéroboam de vin. Comme dans toutes les enquêtes criminelles, une reconstitution est organisée, sur place, chez Marcel. Et elle est intéressante parce que Geoffrey change un peu de discours. Il laisse entendre que c'était un accident, qu'il était venu pour parler avec Marcel, que le ton est monté, qu'ils se sont empoignés, qu'elle est tombée dans l'escalier par accident, même si après il reconnaît que oui, il l'a frappée avec le Jéroboam. À part ça, l'enquête s'intéresse au rôle du copain de Johnny. Quel est son niveau de participation au meurtre? Il dit qu'il était dans sa voiture dehors, qu'il n'a rien vu, qu'il ne savait pas que Geoffrey voulait tuer sa grand-mère. Il prétend aussi qu'il n'a pas participé à l'incendie de la voiture. Sauf que le juge ne le croit pas et il décide de le renvoyer lui aussi devant la cour d'assises. Et Lucie aussi d'ailleurs. Même si les deux restent libres dans l'attente du procès. Pas pour longtemps, parce que quelques mois plus tard, Lucie et Johnny, qui étaient censés ne pas se parler, ne pas se rencontrer avant le procès, se font pincer dans un accident de voiture, ensemble.
et du coup, Johnny, qui a violé les conditions de son contrôle judiciaire, se retrouve lui aussi en tôle. Dernière question avant le procès. Le meurtre a-t-il été commis avec ou sans préméditation? Est-ce que c'est un assassinat? C'est important, parce que si c'est un assassinat, Geoffrey risque perpétuité. Alors que s'il n'y a pas préméditation, il risque 30 ans de prison maximum. Arrivé au bout de son enquête, le juge d'instruction pense que le meurtre était prémédité, que c'est donc un assassinat, pour au moins deux raisons. D'abord, dans les mois qui précèdent, Geoffrey a dit à plusieurs reprises qu'il allait s'en prendre à sa grand-mère. Il le dit notamment à Lucie, qui le répète. Donc, il y pensait depuis longtemps. Et puis, deuxième élément accablant. Quand il descend de voiture pour aller vers la maison de Marcel, Geoffrey enfile des gants. Alors, il a beau dire, depuis la reconstitution, qu'il est allé la voir pour parler, qu'il ne voulait pas la tuer. Pourquoi met-il des gants? Si ça n'est pour ne pas laisser d'empreinte sur la bouteille, sur le Jéroboam. Donc, pour le juge, c'est clairement un assassinat. Et Geoffrey est renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat. Et du coup, son copain Johnny est renvoyé pour complicité d'assassinat. Et Lucie est renvoyée pour recel, figurez-vous. Elle n'a pas participé au fait, elle n'était pas là, mais elle a récupéré les timbres qui étaient dans le portefeuille de Marcel. Un autre juge d'instruction aurait laissé passer ça. Pas celui-là. Ils seront donc trois, dans le box, devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre un peu plus de deux ans après le drame, pour cinq jours, devant la cour d'assises de la Côte d'Or, à Dijon. Drôle de procès. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne sur le banc des parties civiles. Personne. D'habitude, il y a toujours de la famille qui paye un avocat pour défendre la mémoire de la victime, pour demander au passage une réparation financière. Eh ben là, il n'y a personne. Le banc est vide. Et disons que ça joue d'emblée en faveur de Geoffrey. Vous voyez qu'elle n'était pas une mamie gâteau, cette Marcel, puisqu'il n'y a personne. Puisqu'il n'y a personne pour s'en souvenir. À côté de ça, Geoffrey et son avocat plaident le coup de folie. Ils s'engueulent, ça dégénère, elle tombe accidentellement dans l'escalier. Et après, oui, seulement après, effectivement, sur un coup de folie, il la tue à coups de bouteille. Il avait tellement de comptes à régler avec elle. Elle avait tué son père. Voilà, en gros, la ligne de défense de Geoffrey. Qui prend un petit coup dans l'aile quand débarque à la barre un témoin surprise. Un vendeur de voitures de luxe qui dit que Geoffrey est venu le voir après le meurtre avec son copain Johnny.
Ouais, il m'a dit qu'il allait avoir une grosse rentrée d'argent et qu'il était intéressé par un coupé sport dans les 70 000.
Ce témoignage aurait été accablant si la visite chez le concessionnaire avait eu lieu avant le meurtre. Mais comme elle a eu lieu après le meurtre, disons qu'il est gênant. Mais qu'il n'est pas déterminant. Geoffrey pouvait penser légitimement qu'il allait hériter d'une partie des biens de sa grand-mère. Arrive la fin du procès. L'avocat général réclame 30 ans pour Geoffrey et 8 ans pour Johnny. Et il passe l'éponge pour le vol de timbre de Lucie. Mais au final, le verdict est beaucoup plus clément. Les jurés ont manifestement été touchés par la défense de Geoffrey. Il est condamné à 20 ans. Johnny est acquitté et Lucie relaxée. À ce moment-là, évidemment, Geoffrey n'a aucun intérêt à faire appel. Il s'en sort bien. Sauf que l'avocat général, lui, considère que le compte n'y est pas. Et donc c'est lui qui fait appel. Deuxième procès donc en septembre 2009, devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Et il n'y a toujours personne sur le banc des parties civiles. Et d'ailleurs, le président s'en étonne d'entrée.
Je me rappelle une histoire de clochard où la famille était quand même présente. Là, celle de Marcel Bouvard est absente. Je ne savais pas que c'était possible.
Et à la fin, le verdict est beaucoup plus lourd pour Geoffrey.
Il écope de 25 ans au lieu de 20, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. En revanche, pour Johnny, bis repetita. Il est acquitté.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.